Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre journal, le journal des auditeurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous avez la parole sur Africa Radio. Aujourd'hui, vendredi, vous connaissez le principe, c'est la libre antenne dans le journal des auditeurs. Nous reviendrons sur les sujets de cette semaine, mais vous pourrez aussi vous exprimer sur le sujet de votre choix. Alors, vous êtes quelques-uns à vouloir réagir, notamment au rapport d'International Crisis Group qui s'inquiète d'un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais nous parlerons également du transfert de l'ancien président soudanais Omar El-Béchi à la CPI. Pour participer, nous faire part de vos commentaires sur le sujet de votre choix, composez le 33 1 55 07 58 00. Ce numéro est valable depuis Paris ou Abidjan. 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp ou alors sur notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Mais avant de vous écouter en direct, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Allô, bonjour, Julia. Je suis M. Pierre. Donc, je voulais donner un peu d'avis pour ce qui concerne mon pays, la République démocratique du Congo. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais d'abord donner un conseil à nos politiciens. Donc, nos politiciens qui sachent que nous sommes un pays indépendant. Nous ne sommes pas encore sous la dépendance de la Belgique. Nous ne sommes pas. On était colonisés par la Belgique, mais on ne sommes plus colonisés actuellement. Donc, nous sommes indépendants. Donc, qu'ils sachent que la République démocratique du Congo est plus riche que la Belgique. Donc, quand il y a un petit souci au pays, ils s'en vont tous en Belgique pour accuser les autres, pour dire voilà, un tel a fait ceci. C'est comme si les Belges étaient nos juges. Mais les Belges ne sont rien pour nous. Donc, nous devons savoir que la République démocratique du Congo est plus riche, 50 fois plus grand que la Belgique. Donc, ce n'est pas à eux de juger la République démocratique du Congo. Faisons un effort pour qu'on puisse développer notre pays par nous-mêmes, comme les Chinois ont fait.
Bonjour Stéphanie, bonjour de l'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Moi, je pense qu'il y a un problème au cash de Félix Tshisekedi. Comme je l'ai constaté hier, au niveau du langage. En fait, ils parlent mal tous. Félix Tshisekedi, déjà, il fait beaucoup de bavures contre ses partenaires de la coalition, du FCC. Et hier, à l'émission du grand Francis Lalpo, au grand débat, comme c'était mon émission, j'y suis tous les jours, et j'écoute, on parle de 100 jours de Félix Tshisekedi et la répression sur les journalistes, tout ce qui s'est fait, l'extrême autant, en fait, son bilan est. Voilà.
Oui, bonjour. J'appelle pour laisser le message par rapport aux négociations que Ibeka il veut faire avec les groupes djihadistes. Pour moi, ce n'est pas une bonne affaire. Donc, un pays légitime, démocratique, il ne peut pas négocier avec des djihadistes. Parce que négocier avec un groupe de rebelles, ça n'a pas de sens. C'est juste un petit groupe. Le Mali, c'est un pays. Donc, Ibeka a toute la possibilité, elle a tous les moyens pour mettre fin à ces guerres. Ou ce sont leurs négociations, leurs business. S'il n'est pas capable, il peut demander aux pays limitrophes de les aider. Il peut demander à l'ONU de les aider pour mettre fin à ces guerres-là, pour mettre fin à ces djihadistes-là. Mais négocier avec les djihadistes, ça n'a pas de sens. Donc, il y aura partage du pouvoir. Et il est obligé de céder à quelques demandes des djihadistes. Tout comme les djihadistes aussi vont céder à quelques demandes de Ibeka. Donc ils vont partager les pouvoirs. Mais lui, il est démocratiquement. Comment partager les pouvoirs? Comment être dans la table des négociations avec des djihadistes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il devait lutter et faire les nécessaires de mettre fin à ces guerres. Donc c'est des petits groupes. C'est des petites fractions. Ils n'ont pas assez d'hommes comme par rapport à l'armée malienne. Il y a les Nigériens à côté. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il peut porter main forte à Ibeka pour mettre fin à tout ça. Et lui, à son tour, il peut aller apporter aussi un coup de main au Cameroun, au Nigeria, pour mettre fin au Boko Haram. Il y a des solutions faciles à faire, mais ils ne veulent pas les faire parce que c'est leur business. Merci.
Allô, bonsoir, madame Stéphanie. C'est Michel Keïta. J'aimerais répondre à un monsieur hier qui a appelé, monsieur Idriss, qui dit que l'armée malienne est impuissante pour combattre les djihadistes. C'est normal, l'armée malienne est impuissante. Quel pays en Afrique, le Nigeria qui est plus puissant après l'Algérie en Afrique, mais le Nigeria, est-ce qu'ils ont lutté contre les djihadistes jusqu'à présent? Le Boko Haram, ils ont traduit là-bas. Lui, il dit que l'armée malienne est impuissante. C'est normal. Il faut dialoguer avec les djihadistes, c'est tout. Les Américains, ils ont discuté, ils ont dialogué avec les en Afghanistan. Donc, lui, il faut qu'il revoie ce truc. Hein. Les djihadistes, on ne sait pas qui les arme. Aucun pays africain ne peut tenir contre les djihadistes. Donc, Idriss, il n'a qu'à regarder son devoir. Merci, au revoir. Ciao. Monsieur Keïta. Au revoir, madame Stéphanie.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices d'Africa Radio. J'appelle aujourd'hui pour remercier Bondié d'avoir accepté qu'aujourd'hui l'armée malienne soit rentrée au Kidal. Aujourd'hui, tout le Mali est contrôlé par les Maliens. Ça, il faut remercier Bondié. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala.
Amis du JDA, bonjour. Bonjour aussi à ceux qui aiment le Congo-Brazzaville. Amis du JDA, ces jours-ci, j'écoute la publicité dans différents médias. Ben, je le savais toujours, on connaît déjà la réalité depuis longtemps, mais cette publicité met encore au grand jour la réalité sur les transports au Congo et à destination du Congo-Brazzaville. Air France met une promotion, fait une promotion de ses vols. Donc, Paris-Johannesburg à moins de 426 euros. Moins de 426 euros. C'est le double de la distance entre Paris-Brazzaville et Brazzaville et Johannesburg. Donc, soit Brazzaville-Paris, 6000 km environ, Brazzaville-Johannesburg, 5500 km environ. Donc, le double de ce trajet, donc de Paris à Johannesburg, c'est 426 euros environ. Mais, entre Paris et Brazzaville, ça coûte 900 euros souvent, parfois 1400, 1500 euros dans la période de haute saison. Bon, voilà. Monsieur Sassou, vous savez, vous voyez, essayez de faire jouer la concurrence. Je précise bien, la concurrence. Comme ça, les prix vont diminuer. Parce qu'on ne peut pas concevoir ça. Est-ce que l'aéroport de Brazzaville n'est pas équipé pour bien accueillir les avions? Mais si c'est le cas, que les avions désertent. Mais s'ils gênent, ils desservent cette escale, c'est que les pistes sont habilitées. Mais je ne sais pas pourquoi on doit payer plus cher que ceux qui vont plus loin. Merci.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Nous ouvrons sans plus tarder cette libre antenne. Dans quelques instants, nous parlerons de la Guinée où le Parlement européen a adopté hier jeudi une résolution pour condamner la répression policière. Et hier d'ailleurs, un jeune adolescent de 15 ans a encore perdu la vie. Nous parlerons également en fin d'émission de l'extradition probable d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. Mais nous ouvrons cette libre antenne tout de suite avec ce rapport d'International Crisis Group intitulé « 8 priorités de l'Union africaine en 2020 ». Il a été rédigé à l'occasion d'une 33e sommet de l'UA qui s'est tenue à Addis Abeba il y a quelques jours. Alors l'ONG soumet plusieurs points à la vigilance de l'Union africaine. Alors parmi lesquels, le compromis avec les Nations Unies quant au cofinancement des opérations de paix, les élections en Éthiopie, le chapitre 2 s'intitule « Se préparer à soutenir les élections en Éthiopie ». Et en chapitre 3, éviter la violence alimentée par les chefs d'État qui amendent les règles constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Dans ce chapitre, il y a un petit paragraphe consacré à la Côte d'Ivoire qui dit ceci. Henri Conan Bédié est actuellement en pourparlers avec un autre ancien président, Laurent Gbagbo, concernant une alliance entre leurs partis respectifs. Si une telle alliance venait à être créée, le parti d'Alassane Ouattara ferait face à une coalition d'opposition de poids qui pourrait donner lieu à des élections très serrées. Pour compliquer un peu plus la situation, Laurent Gbagbo menace désormais de revenir en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité dont il était accusé. Son retour pourrait raviver les conflits. En effet, son refus d'admettre sa défaite face à Alassane Ouattara aux élections de 2010 avait déclenché des violences qui ont coûté la vie à plus de 3000 personnes. Le retour possible de Laurent Gbagbo associé à l'éventuelle décision d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat pourrait faire craindre la reprise des massacres de 2010. Voilà ce qui est écrit dans le rapport d'International Crisis Group. Et ça a fait bondir Didi de son fauteuil. Didi, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Donc, merci de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie, Didi. Alors, Didi, est-ce que vous avez un kit main libre, quelque chose de branché, un haut-parleur ?
Non, je n'ai pas de kit main libre, je n'ai rien du tout.
Ah bon ? Bon, allez-y alors, on vous écoute.
Donc, j'ai bien voulu prendre la parole pour déjà dénoncer ce rapport concernant le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et qui menacerait donc la paix et qui raviverait les conflits. Et Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale. C'est quelqu'un que toutes les organisations internationales qui étaient en Côte d'Ivoire ont...
Ah ! Alors Didi n'a pas de kit main libre, mais il doit être sûrement en déplacement. Voilà, je suis désolée. Hein, malheureusement, je sais hein, qu'on vous enquiquine à demander toujours hein, d'être dans un endroit calme, tout ça, mais c'est effectivement pour les raisons techniques. Merci beaucoup Didi, on va peut-être essayer de vous rappeler ou essayer de nous rejoindre. On va écouter Claudel, hein, qui à mon avis se fera le porte-parole de Didi. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah Claudel, vous êtes aussi en circulation, non ?
Oui, mais ça va, oui.
Ah bah ça va, si ça coupe...
Ça va, pour vous suivre, on attend un peu, pour être un peu plus libre dans l'après-midi, mais bon, c'est un peu...
Ah, je suis désolé, c'est pas moi qui... Il y a des contraintes de l'émission. Cela dit, Claudel, allez-y, oui. On vous écoute.
Bah écoutez, moi, je m'insurge, parce que voilà une organisation qui a fait aussi des rapports pour remis au procureur de la République. Le président Gbagbo a été jugé pendant 3 ans. Il a été acquitté. Au nom de quoi quelqu'un qui est acquitté doit pas rentrer dans son pays? Vous voyez, ce genre de rapport, c'est pour raviver, surtout eux, c'est pour raviver encore des animosités inutiles. Parce que je me rappelle que cette organisation a produit des rapports. Mais tous ces rapports ont été lus à la CPI. La CPI qu'on croit... la meilleure justice internationale. Cette justice-là a acquitté le président Laurent Gbagbo. Le monsieur doit pouvoir rentrer dans son pays. Voilà, c'est assez simple. Et dans le rapport,
au-delà,
pas...
sans me faire l'avocat du diable, Claudel, bon, alors, on entend bien que vous entendez que le retour de Laurent Gbagbo est une menace pour la Côte d'Ivoire. Vous entendez ça dans le rapport d'International Crisis Group, mais ce qu'on peut entendre aussi, c'est surtout que l'ONG s'inquiète pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle évoque aussi hein, l'éventualité d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de ces organisations internationales suite à...
Non, pas du tout. Moi, je pense que, d'abord, je voudrais, c'est faux de dire que le président Gbagbo avec Conan Bédié cherche à tisser une alliance. Ça n'a rien à voir du tout. Et ces personnalités se sont rencontrées pour parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il se trouve que la majorité, les 80% de la population souhaitent la réconciliation vraie. Mais ceux qui sont au pouvoir, ça les intéresse pas du tout. Vous voyez, donc quand Bédié va voir Gbagbo, c'est pour parler de réconciliation. Le pouvoir qui est en place, il y va de son intérêt d'appeler tous les citoyens du pays pour parler de réconciliation. Voyez-vous, pourquoi cette organisation ne s'inquiète? Parce que Ouattara, en réalité, comment je peux dire ça? La Constitution ne lui permet pas, en réalité, d'être encore candidat. Ça, il n'en parle pas du tout. Il n'en parle pas du tout. Monsieur Ba, bonsoir.
On va évoquer ça, Claudel. Je vous remercie, Claudel, que vous êtes nombreux à vouloir commenter cette actualité. On va évoquer justement l'éventuelle candidature d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara avec Siaka dans quelques instants. Avant ça, on écoute Olivier rapidement, qui voulait réagir aussi à ce rapport. Olivier, bonjour.
Bonjour Stéphanie Hoffman, bonjour à tous les auditeurs de Africa Radio. C'est Olivier Ngwanza, président de l'association Grand Lac Banalemba et président de tous les ressortissants de la RDC de la ville de Brenois. Moi, je voulais intervenir par rapport à la situation de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Les autorités de la Côte d'Ivoire, ils ont préféré l'envoyer à la CPI. Laurent Gbagbo est allé à la CPI, il a purgé sa peine, il a été jugé à la CPI et il y a les verdicts qui est tombé. Il est libre, donc Laurent Gbagbo doit rester.
C'est un résumé qui n'est pas tout à fait exact, Olivier, en termes juridiques, mais c'est à peu près ça, en effet. Il n'y a pas eu vraiment de procès, il n'a pas purgé sa peine, puisqu'il n'a pas été condamné.
Ça colle. Il a retourné en pays. Il doit retourner en Côte d'Ivoire, parce qu'il est libre de toute accusation par la CPI, la plus grande instance internationale. Donc la Côte d'Ivoire n'a plus rien à faire par rapport à Laurent Gbagbo. Parce qu'il était là-bas, il fallait qu'il puisse lui juger en Côte d'Ivoire. Ils ont préféré lui envoyer à la CPI. Maintenant l'affaire est close. Laurent Gbagbo normalement doit retourner à son pays et continuer à faire ses activités politiques.
Et merci, à la fin, Olivier.
Il ne parle pas de son troisième mandat. Il ne parle pas de ça. Hier, il se disait démocrate. Et aujourd'hui, il est encore démocrate pour ne pas respecter la Constitution. Pour ne pas respecter les dédoublements, les triplements des mandats.
D'ailleurs, on précise qu'il y a quelques semaines, au moment de son discours, je crois, du 1er janvier, Alassane Ouattara avait rappelé qu'il allait entreprendre une modification constitutionnelle, qui est d'ailleurs dans les tuyaux. Merci, Olivier. On va écouter justement Siaka, qui voulait s'exprimer sur cette éventualité d'un troisième mandat. D'ailleurs, le rapport d'ICJ, Siaka, bonjour, et ensuite je vous donne la parole. Le rapport d'ICJ précise que Alassane Ouattara a déclaré qu'il ferait connaître sa décision finale en juillet 2020. Il a également menacé de participer à la présidentielle donc d'octobre prochain si ses principaux rivaux, et en particulier l'ancien président Henri Conan Bédier, décidaient de se présenter aux élections. Alassane Ouattara craint qu'Henri Conan Bédier batte son successeur favori Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre actuel. Siaka, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous vouliez évoquer justement cette éventualité d'un troisième mandat.
Oui.
Alors, il faudrait couper votre radio, Siaka, ou enlever votre kit main libre, ou voilà, faire quelque chose. Mais
c'est bon maintenant.
C'est pour. Allez-y, on vous écoute.
Voilà.
C'est bon, on vous écoute.
Ok. Au fait, c'était par rapport au président ivoirien Alassane. Allô.
Oui, Siaka, on vous écoute. Vous vouliez évoquer cette éventualité d'un troisième mandat. Je viens de répéter.
Moi, moi, je suis du Nord.
Oui.
Et je ne cautionne pas parce que on me dit qu'il a travaillé. Ça ne veut pas dire que non, il doit se présenter à chaque fois. La Constitution te donne 2 ans, 2 mandats. Après les 2 mandats, normalement, il peut partir comme un bon démocrate. Mais a dit parce que vous avez bossé, c'est pas synonyme du troisième mandat. Je compte.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'argument générationnel où il dit voilà, si mes prédécesseurs Henri Conan Bédier et se présentent, je le ferai aussi.
Mais monsieur Henri Conan Bédier, il a fait combien de mandats? Il est passé seulement une fois. Que ce soit Gbagbo ou je sais pas. Ils sont tous passés une fois. Lui, il a fait ses 2 mandats.
Gbagbo, il est resté quand même 10 ans. Quoi.
Voilà, il a déjà fait ce qu'il pouvait faire pour les gens. Et c'est suffisant.
Merci, Siaka. Merci.
Après
beaucoup.
Lui, celui qui va venir, il va faire 20 ans aussi, s'il n'arrête pas.
Vous êtes en faveur de l'alternance, on a bien compris, mon cher Siaka. Merci beaucoup de votre participation. On va clore, on va juste clore tout de suite le dossier Côte d'Ivoire avec Kwame. Rapidement, oui. Monsieur Kwame, bonjour.
Oui, bonjour, ma grande. Comment allez-vous?
Monsieur Kwame, je vais très bien, et vous-même?
Oui, ça va, grâce à Dieu. Ben moi, je voulais intervenir parce que nous parlons de réconciliation sincèrement. Moi, je demande un mea culpa au président Ouattara qu'il fasse table rase pour tout ce qui s'est passé. Quand lui, il était en Chine, le président Gbagbo a pris l'avion présidentiel, il est venu le chercher, lui, Bédier. Il dit un enfant du pays ne doit pas rester à l'étranger, qu'il rentre. pourquoi ne pas les laisser rentrer et puis s'asseoir, discuter pour trouver une solution pour la paix pour tous les Ivoiriens. Ça ne sert à rien de tirer le drap vers soi. Parce que c'est vrai, il a travaillé. Ses deux mandats, il a fini. La Constitution ne permet plus qu'il se présente. Maintenant, s'il veut positionner un fiston, qu'il le fasse. Mais dire qu'un Ivoirien ne doit pas rentrer chez lui, c'est vraiment c'est déplorable. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et qu'il arrête de manipuler la population. Parce que nous, les Ivoiriens, on s'aime. On ne doit pas faire du mal à son frère. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix et d'ambiance.
Quoi, vous entendez, hein, on diffuse pas mal de messages, et encore, je ne diffuse pas tout. Vous dites, voilà, les Ivoiriens, on s'aime. Vous entendez une certaine animosité qui monte entre les uns et les autres, quand même. On parle beaucoup actuellement... peut-être à tort, justement, de nordistes et de sudistes. Vous avez entendu Siaka, juste tout à l'heure, qui disait « moi, je suis du Nord », certains disent « moi, je suis du Sud ». Ça vous inquiète, ces rivalités?
Oui, ça m'inquiète, parce que depuis que la Côte d'Ivoire a existé, il n'y a jamais ce problème du Nord, du Sud, de l'Ouest à l'Est. On est un et indivisible. Parce que c'est les politiciens qui sont venus détruire cette ambiance-là. Vraiment, qu'on se ressaisisse. Il est temps qu'on se ressaisisse. Parce que on ne peut pas tuer la Côte d'Ivoire à cause d'un seul individu. Ce n'est pas possible. Et les gens vont passer, la Côte d'Ivoire demeure toujours.
Merci.
Vraiment. Et puis, vous voyez, je vais vous dire une chose, ma grande. Vous voyez, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Guiglo, il y a des gens qui ont continué pour construire une école et des frères burkinabés se sont levés pour dire que non, on ne doit pas construire l'école. Mais où on va avec tout ça?
Bon,
quand
effectivement.
Quand est-ce qu'il y aura la réconciliation?
Ah, c'est voilà. La question, on restera sur cette question en suspens, M. Kwame qui s'interroge, hein, quand y aura-t-il la réconciliation? Je le redis, on ferme ce dossier Côte d'Ivoire. Dans un instant, on va parler du Soudan. Je dis ça pour Traoré, je pense qu'il voulait s'exprimer sur le Soudan. Donc, ce sera en fin d'émission, dans quelques minutes. Avant cela, on fait le point sur la situation en Guinée, où les manifestations ont conduit à une 29e victime. Idrissa Barry, hein, 15 ans, a été tué par balle hier, hein, dans des heurts avec les forces de l'ordre. On en parle avec Tidiane, depuis Douala, au Cameroun. Tidiane, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, et bonjour à tous les auditeurs de la radio, d'Africa Radio.
Bonjour Tidiane, hein, merci d'être là. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur la Guinée? Quel regard sur la situation? Est-ce qu'on en arrive à une situation de blocage? Vous voulez revenir sur la question du référendum et de la résolution de l'UE, je pense.
Oui, vu déjà que le président Condé, malgré la médiation de chefs religieux, en tout cas, l'appel de l'Union africaine, de l'ONU plutôt, le président Condé tient toujours vraiment à tenir, comme il le souhaite, le référendum le 1er mars prochain. Moi, je pense que vu la détermination du peuple de Guinée et du FNDC, et surtout la dernière rapport de l'Union européenne, en tout cas, moi, je pense que vraiment ce référendum risque à nouveau de n'avoir pas avoir lieu. Parce que ce rapport de l'Union africaine, à mon avis, vient quand même d'appuyer la position du FNDC, du Front National pour la Défense de la Constitution. Et surtout, ce rapport a été loin jusqu'à même demander la poursuite, en tout cas, de toutes les forces de maintien de l'ordre qui sont accusé d'avoir quand même tué les manifestants.
Est-ce que vous pensez, Tidiane, que ce rapport peut avoir une influence, un impact en Guinée, que cette résolution du Parlement européen, plutôt?
Oui, sans doute, hein, parce que vous savez, actuellement, vu les derniers jours de la manifestation, donc il y a quand même un peu un étouffement du Front National pour la Défense de la Constitution. Donc, ce rapport vient quand même, d'appuyer à nouveau, de redonner quand même plus d'espoir au Front National pour la Défense de la Constitution.
Merci, Tidiane. Merci beaucoup. Bonne journée à Douala, mon cher Tidiane. On retrouve Tierno, bien sûr, quand on parle de la Guinée. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour, chère Stéphanie, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices d'Africa Radio.
Bonjour, Tierno. Vous avez entendu Tidiane, hein, votre compatriote, qui était plutôt satisfait de la résolution de l'Union européenne. On a vu sur Doutieux hein, des rapports de l'Union européenne qui étaient restés lettre morte. Vous pensez que ça peut influer sur la volonté d'Alpha Condé d'aller hein, jusqu'au bout, notamment dans l'adoption d'une nouvelle constitution ?
Oui, tout à fait. C'est une satisfaction pour moi parce que la reconnaissance de la liste du peuple guinéen est en train d'être prise dans les grandes institutions internationales. C'est quelque chose qu'on a toujours demandé et on a toujours souhaité. C'est quelque chose qui a été fait. Donc, c'est un grand pas parce que tout ce que nous avons dénoncé ici a été dénoncé par les députés européens. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment salutaire et qui va encore accélérer parce qu'il y a certains qui pensent qu'il y a même des postes de pouvoir qui disent que non, la Guinée, c'est un État souverain. D'accord, mais la Guinée aussi a des États partenaires et des institutions partenaires. Donc, si les députés européens haussent le ton, je pense que les grandes institutions financières vont aussi reculer et faire beaucoup attention avec ce régime actuel. C'est quelque chose qui marque un grand pas vers l'avant, vers une alternance démocratique en Guinée, parce que c'est un peu retardé, mais ça n'a jamais été trop tard. Je pense que nous sommes debout et déterminés. C'est ce que j'ai toujours sollicité, que ce soit sur votre antenne ici ou dans les autres médias. Donc, j'ai toujours sollicité que les institutions s'engagent, les institutions interpellent et qu'il y a des sanctions. Parce que vous avez vu ce qui a été dit, donc les grandes puissances ou l'Union européenne ne peut plus répondre à des armes de guerre ou de convention à l'autorité guinéenne pour le moment. Donc c'est quelque chose qui est salutaire. Et aussi j'ai appris ce matin par les sources que des heures même d'interdiction de voyage, ce que j'ai toujours sollicité dans votre antenne, et en préparation dans les grandes nations, états démocratiques du monde.
Donc et de mettre sous sanction.
Nous pouvons compter alors... par... que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui est salutaire. Parce que l'actuel dirigeant est ce...
On a compris, Tierno, que vous appeliez à des sanctions. Merci, excusez-moi, Tierno, mais c'est toujours un peu compliqué de vous interrompre. Vous appeliez à des sanctions hein, pour faire pression sur le président Alpha Condé. On évoquait le rapport d'International Crisis Group hein, en début d'émission. International Crisis Group, hein, justement, s'inquiète hein, de la situation en Guinée. Et l'ONG écrit ceci hein, pour éviter une recrudescence de la violence. L'UA et la CDAO devraient appeler Alpha Condé à s'abstenir de modifier la constitution en vue de renouveler son mandat et l'encourager à ne pas se présenter. Elle devrait inciter vivement le gouvernement à laisser l'opposition faire campagne librement et s'assurer que les membres de sécurité responsables des récentes attaques contre les civils soient amenés à rendre des comptes. Voilà hein, ce que dit ICG sur la situation en Guinée. On écoute rapidement M. Keïta sur le Mali qui est pour le dialogue sur les djihadistes et ensuite on parle du Soudan avec Ozana. M. Keïta, bonjour.
Bonjour Mme Stéphanie.
Bonjour M. Keïta, on vous écoute.
Bonjour Mme. Oui, mais je veux parler concernant sur la négociation avec les djihadistes de Ibeka. Moi, je suis très, très content pour ça. Parce que, pourquoi je dis que je suis très content pour ça? Parce qu'il y a toutes les forces étrangères qui sont au Mali, MINUSMA, Barkhane, GSS Sahel. Il y a tout là, mais il n'arrive pas à tuer Amadou Koufa et Yagali. Donc, maintenant, il y a eu beaucoup de sang malien, des civils, des militaires étrangers, tout qui sont coulés au sol du Mali. Donc il faut, à un moment donné, il faut vraiment négocier avec ces gens-là pour arrêter les bains de sang. Moi, je suis très, très content de cela.
C'est clair. C'est
ça que je voulais dire. Voilà, j'ai pas d'autre chose. J'ai ça à dire. Je suis très, très bien content. J'ai entendu hier que le djihadiste Amadou Koufa a accepté négocier avec Ibeka. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un émissaire qui est parti le voir. Il a accepté de négocier avec Ibeka.
Il y aurait même hein, certaines trêves hein, négociées dans certains partis hein, du centre du Mali. Merci beaucoup, M. Keïta, hein, de nous avoir appelé. M. Keïta qui voulait évoquer le dialogue ouvert hein, avec Iyad Agali et notamment Amadou Koufa, principalement hein, au Mali, de chef djihadiste. Merci, M. Keïta. Ozana, bonjour. Alors, Ozana, du côté de N'Djamena, au Tchad, est-ce que Ozana nous entend? Oui.
Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à tout le monde.
Bonjour Ozana, vous êtes bien à N'Djamena, hein?
Oui, je suis à N'Djamena, la capitale du Tchad.
Exactement. Lozana, vous vouliez réagir, hein. À l'annonce des autorités, nouvelles autorités soudanaises, hein, le Conseil souverain issu de la transition, hein, qui a signé un accord avec les rebelles du Darfour. Et cet accord prévoit notamment le transfert à la CPI de tous ceux accusés dans le cadre, hein, des crimes de guerre commis dans le Darfour, et parmi ceux-là, Omar El-Béchir. Qu'en pensez-vous, Lozana?
Moi, je pense que ces revirements m'étonnent vraiment. Parce que la junte au pouvoir a été vraiment catégorique sur le sujet de transférer Omar El-Béchir au CPI. Et je ne comprends pas ces revirements. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette décision? Et sinon, moi, je ne suis pas trop favorable sur le fait que les autorités décident maintenant d'envoyer Omar El-Béchir à la haie. Je pense que l'Afrique est capable de juger Omar El-Béchir. Donc, il faut juste créer une cour spéciale, comme ce fut le cas de Dussane avec le dictateur Hissène Habré. Parce que la haie aujourd'hui, la CPI n'a pas vraiment de la crédibilité. On a compris que cette cour est vraiment créée pour juger que les présidents africains. Donc, je pense que l'Afrique doit prendre les choses à main, essayer de juger ses propres fils sur le continent.
Certains invoquent, Lozana, le fait, l'âge, hein, d'Omar El-Béchir, 76 ans, et certains invoquent le fait que s'il devait être jugé, hein, sur le continent, à l'instar, hein, des chambres extraordinaires qui ont été montées pour juger Hissène Habré, cela pourrait prendre plusieurs années. Lozana, est-ce que vous comprenez peut-être le désir de justice des gens du Darfour?
Oui, oui.
Est-ce que vous comprenez peut-être le désir de justice des habitants du Darfour, en tout cas de ceux qui les représentent?
Oui, oui, je comprends le désir du peuple soudanais, le peuple qui aspire vraiment à un jugement, à la justice, mais cela n'empêche qu'on doit créer très rapidement une cour pour juger et condamner Omar El-Béchir sur le sol africain. Sinon, si on en va à la haie, il risque, avec son âge qui est avancé, il risque de mourir avant son procès.
Et oui, dans tous les cas, d'ailleurs, effectivement, la justice est plutôt longue. Merci beaucoup, Lozana. On fait un petit coucou, d'ailleurs, hein, à Christian aussi, qui, lui, maintenant, j'ai retenu, qui est à Gosbeida. Et Gosbeida, c'est au Tchad et c'est à la frontière avec le Soudan. Merci, Lozana. Bonne journée à vous. On écoute Traoré qui voulait évoquer également, hein, cette question. Traoré, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Souleymane.
Oui, c'est bien. Oui. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Voyez-vous, Madame Stéphanie, souvent ici, tu peux faire d'entendre certains Africains. Sur cette radio qui était Africa numéro 1 dans le temps, avec Jules Hadji Komna, que je salue de passage, si j'écoute cette radio.
Cher confrère, que je salue aussi.
Oui, avec Stéphanie.
Fondateur du journal des auditeurs, je lui rends hommage.
Voilà, très bien. Avec Eugénie Djeki également. Mais je suis quand même étonné de voir que on se rappelle sur cette radio que Omar El-Béchir a commis un massacre au Darfour. Et nous sommes montés ici au créneau, nous avons dénoncé la boucherie humaine que ce monsieur s'adonnait dans le Darfour. La CPI a vu... on a tous vu...
Kémis Djanjaouid, c'était en 2009. Enfin, la CPI a lancé le mandat d'arrêt en 2009.
Effectivement, avec sa milice Djanjaouid, ils ont massacré le peuple du Sud-Soudan. Et du Soudan. Aujourd'hui, la CPI, la junte au pouvoir décide de transférer ce boucher à la CPI pour qu'il soit jugé. On voit des Africains s'offusquer et qui tassent la CPI d'être une justice impérialiste. Madame Stéphanie, Jean-Pierre Bemba a été jugé à la CPI, il a été libéré. Le président Babo Laurent a été acquitté. Madame Stéphanie, la CPI n'est pas une justice aux ordres. Je suis désolé. Si ce monsieur a commis des massacres, il doit être jugé purement et simplement. Qu'on arrête les postures panafricaines, les postures impérialistes. Omar El-Béchir a commis un massacre au Darfour et il doit être jugé. Nous avons réclamé cela. C'est le même cas comme celui du pays voisin qui s'appelle le Burundi. Puis un président, depuis 2015, a massacré le peuple burundais. Et donc demain, il va quitter le pouvoir après un troisième mandat qui était illégal. On va lui dire qu'il a donné le pouvoir pacifiquement.
Mais
on
merci. Applaudi.
Non. Madame Stéphanie, je vais terminer en disant aux Ivoiriens qu'il y a une manifestation demain à Trocadéro à 14h.
Manifestation demain à 14h au Trocadéro. Le Trocadéro est devenu la place la plus africaine de Paris. Merci à tous de votre participation. Vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à continuer les débats toujours animés sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, ou alors sur le répondeur. Hein. Laissez votre message au 33 1 55 07 58 05. Bon week-end à l'écoute d'Africa Radio.